Et voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En Colombie, le candidat de la droite dure opposé à l'accord de paix avec l'ancienne guérilla des FARC est arrivé en tête de la présidentielle hier soir. Pour le deuxième tour, le 17 juin prochain, Iván Duque sera confronté au représentant d'une gauche anti-système, Gustavo Petro. Un scrutin inédit, Marie-Ève de Teuf. Vous nous résumez la soirée d'hier soir.
L'image de Timochenko, le vieux chef guérillero démobilisé, en train de déposer son bulletin de vote, a marqué cette élection présidentielle historique. L'armée colombienne, qui s'était déployée sur tout le territoire, a fait savoir qu'aucun fait de violence n'avait perturbé la journée. Les résultats sont tombés très vite, moins d'une heure après la fermeture des bureaux de vote. Le candidat de la droite dure, Iván Duque, est arrivé en tête avec 39% des voix. Mais comme l'avaient prédit les sondages, il se retrouve en ballottage avec le candidat indépendant de gauche, Gustavo Petro, qui en obtient 25%. C'est une première dans ce pays qui avait toujours voté à droite. Le candidat du centre, Sergio Fajardo, un professeur universitaire entré tard en politique, a créé la surprise puisqu'il talonne Gustavo Petro. Fajardo a fait campagne contre la corruption et les pratiques politiciennes. La question de savoir s'il va accepter une alliance avec Gustavo Petro se pose. C'est à cette seule condition que le camp progressiste pourrait l'emporter le 17 juin prochain. Iván Duque va en effet compter sur les voix de Germán Vargas Lleras, un vieux politicien qui a été plusieurs fois ministre, que tout le monde donnait gagnant il y a un an et qui n'a obtenu que 7% des voix. Il y a une vraie recomposition du paysage politique colombien. À court terme, les électeurs devront choisir entre la droite dure et la gauche radicale, un choix difficile pour beaucoup.
Correspondance à Bogota, signée Marie-Ève de Teuf. En Italie, Giuseppe Conte, qui promettait la semaine dernière aux Italiens d'être leur avocat en Europe, a finalement renoncé hier soir au poste de chef du gouvernement. Conséquence d'un veto émis par le président de la République, Sergio Mattarella, qui a refusé la liste des ministres proposée par la coalition populiste au pouvoir. Mattarella, qui s'apprête ce lundi à désigner Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire, afin de mener le pays vers un nouveau scrutin législatif. Podemos salue un résultat historique et un record de participation. 70% de ses militants renouvellent leur confiance à ses deux dirigeants, Pablo Iglesias et Irene Montero. Le parti de gauche radicale espagnole les appelait à voter après une polémique. Les deux dirigeants ont en effet acheté une villa à 600 000 euros dans une banlieue chic de Madrid, se voyant reprocher par certains militants d'avoir trahi les principes du mouvement. À quelle échéance faut-il interdire le glyphosate ? La question est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Malgré la promesse d'Emmanuel Macron de l'interdire au plus tard dans 3 ans, rien ne figure dans la loi. Mais un amendement a été déposé par des députés de la majorité, Benjamin Delisle.
Ils sont une cinquantaine de députés marcheurs à vouloir inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. À la manœuvre, Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, est proche de Nicolas Hulot.
La question, c'est pas de sortir du jour au lendemain du glyphosate. La question, c'est de traduire l'engagement présidentiel, de le réussir. Moi, je pense qu'il faut le traduire dans la loi. D'autres pensent que c'est à côté par la mobilisation des acteurs. Peut-être qu'on peut cumuler tout ça, mais il y a un engagement très fort du président de la République qui est: on accompagne les agriculteurs dans la sortie du glyphosate en 3 ans, sans en laisser aucun sans solution.
Ce que craignent les signataires, tout comme les ONG environnementales, c'est que le gouvernement ne fasse marche arrière pour s'aligner sur l'Europe. L'Europe qui a décidé à l'automne d'interdire le glyphosate d'ici 5 ans. Même au gouvernement, 2 lignes s'affrontent, celle du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, pour l'amendement, contre celle du ministre de l'Agriculture qui est à l'initiative de cette loi, Stéphane Travert.
Moi, je n'ai aucune crainte sur la sérénité des débats. Moi, je suis serein, nous avançons, nous crantons les choses au fur et à mesure. En tous les cas, moi, je porte la parole du gouvernement et c'est là aussi une forme de sérénité que de la porter.
C'est donc en ces termes que va se tenir le débat aujourd'hui à l'Assemblée.
Explication signée Benjamin Delisle. 3 mois et demi après avoir présenté les contours du nouveau bac général et technologique, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, présente aujourd'hui sa réforme pour la voie professionnelle. 700 000 élèves concernés, c'est un tiers des lycéens. Jean-Michel Blanquer devrait accentuer les mesures prises par son prédécesseur Vincent Peillon en créant notamment de nouveaux sites d'excellence. Il s'agirait aussi de simplifier l'offre de formation pour les bacs pro. Les 11 cursus devraient ainsi être regroupés en 3 grandes familles: commerce, gestion et BTP, et cela dès la rentrée prochaine. La mobilisation s'organise pour que Mamoudou Gassama soit régularisé. Une pétition en ligne a recueilli près de 2500 signatures en seulement 6 heures. SOS Racisme lance également un appel en ce sens. Ce sans-papiers malien a sauvé un petit garçon de 4 ans samedi soir, enfant qui était suspendu à un balcon au 4e étage d'un immeuble parisien. Il sera reçu ce matin par le président Emmanuel Macron. La météo avec 4 départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange pour des orages à partir de 11h. Il s'agit de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Des orages qui vont progressivement atteindre le reste du pays et les températures, elles s'échelonnent de 17 à 26 degrés aujourd'hui.